Vous écoutez
RMC.
RMC Mobilisation Générale, plus fort ensemble.
Oussem Le Saïef, Thibaut Giangrande.
Vous notez, Mobilisation Générale, plus facile à dire que Sport Show Revival.
En même temps, hein? On n'est pas trop dans l'anglicisme.
Merci à vous en tout cas d'être ce soir sur RMC. Salut à tous, merci de passer votre dernier samedi confiné sur RMC. Après quand même, faudra revenir nous voir de temps en temps en direct tous les samedis soirs. Mobilisation Générale, toute l'actu du coronavirus jusqu'à 21h. Et après, on essaye tous ensemble de mieux vivre notre confinement et le déconfinement qui arrive. Oussem, salut.
Salut Thibaut, bonsoir à tous. Qui dit 11 mai dit déconfinement, et qui dit déconfinement dit nouvel élan pour les Français. Un élan que les citoyens franciliens devront maîtriser. Les déplacements seront contrôlés. On en discute avec François-Xavier Arouls, co-secrétaire du syndicat Solidaire RATP, et Pierre Chasselet, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. 20h30, Thibaut, la direction, elle est pour nous, et c'est l'île de beauté. L'Assemblée de Corse a voté un projet de sortie du confinement prévoyant un dispositif de gestion des passagers entrants. À partir du 23 juin, il faudra être négatif au Covid-19 pour aller en Corse. Jean-Félix Acquavive, député des Hautes-Corses, et Jean-Paul Stahl, chef du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Grenoble, seront avec nous à 20h45. On parlera de bière. 10 millions de litres perdus, et je vous l'assure, ils ne sont pas cachés chez Thibault. On reviendra sur cette situation incroyable pour les brasseurs français. Dans la deuxième heure, un peu plus d'humeur, parce que j'ai vérifié avant. Dans la deuxième heure, Thibault, un peu plus d'humeur, il sera question de poker et de Koh-Lanta avec notre ami Mundir. 21h30, notre héros du jour, Thibault, tiens, si je te dis légende du tennis français.
Richard Gasquet.
Si je te dis publicité comme j'aime.
Ah, Benjamin Castaldi.
Non, pas du tout. C'est Henri Lecomte qui sera avec nous pour parler d'une vente aux enchères au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Et pour finir, on parlera football en Allemagne. Le championnat reprend la semaine prochaine. On prendra des nouvelles d'un de nos internationaux français, Alassane Pléa.
Il est 20h07, mobilisation générale dans une journée. 3h50, dans quoi je me suis lancé, attends, 52 minutes et 30 secondes. Le déconfinement, le retour au boulot, c'est dans deux jours. Désolé de parler un peu des choses qui fâchent, mais pour des millions de Français, il va falloir retourner sur le lieu de travail, et pour beaucoup, en transport en commun. L'Île-de-France concentre beaucoup d'inquiétudes, plusieurs millions de voyageurs sont attendus. Bonsoir Adrien Courrouble.
Salut Thibault, salut à tous.
Qu'est-ce qui est prévu pour ces voyageurs?
De nombreuses mesures qui feront de ce lundi 11 mai tout sauf un jour normal dans les transports. Oubliez votre plan de métro habituel. Si toutes les lignes seront ouvertes, toutes les stations parisiennes ne le seront pas. 60 d'entre elles vont rester fermées pour éviter l'afflux de population, dont certaines très fréquentées habituellement, comme la station République qui dessert normalement 5 lignes. Ça va rappeler aux usagers certains souvenirs récents, les grèves de décembre par exemple. La circulation, elle, sera assurée à 75%. En gros, environ 3 métros sur 4 circuleront avec priorité donnée aux lignes les plus fréquentées. C'est logique, la ligne 13, très fréquentée à Paris, circulera à 85% de son trafic habituel par exemple. Mais attention, si vous pouvez oublier le plan de métro habituel, il ne faut surtout pas oublier l'attestation. Si vous vous déplacez en heure de pointe, entre 6h30 et 9h30 ou entre 16h et 19h, elle est obligatoire et doit justifier d'un déplacement pro. Pas d'attestation et ce sera les fameux 135 euros d'amende.
Adrien, est-ce qu'on aura des mesures sanitaires à l'intérieur des transports ?
Des marquages au sol ont été mis en place pour permettre la distance entre les passagers. Un siège sur deux sera condamné pour respecter ce fameux mètre d'écart. 3400 agents seront déployés pour faciliter les flux. Il y aura 30% d'agents de nettoyage en plus pour doubler le nombre de nettoyages quotidiens. Et puis veillez surtout à vous munir d'un masque. Ils seront obligatoires à l'intérieur des transports sous peine d'écoper encore et toujours les 135 euros d'amende. On récapitule, masque obligatoire, attestation aux heures de pointe, station fermée, service moins assuré. Bref, le plus simple, si vous avez à vous déplacer, c'est de prendre le vélo.
Merci Adrien Courrouble. Bonsoir François-Xavier Arouls.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, vous êtes co-secrétaire du syndicat Solidaire RATP. Tiens, je vais rebondir sur ce que disait notre journaliste à l'instant. Vous confirmez, le plus simple, c'est de prendre le vélo lundi?
Écoutez, effectivement, on se pose énormément de questions côté RATP, du moins du côté des salariés. Vu la difficulté que la direction de la RATP a à nous répondre sur comment elle va gérer le flux de voyageurs et le nombre de voyageurs qui vont venir emprunter les transports en commun le 11 mai, il y a de quoi s'inquiéter. Effectivement, il faudrait privilégier en plus des transports pour ceux qui ont nécessairement besoin de se déplacer, comme ça a toujours été le cas depuis le début de cette pandémie, pour les personnels soignants, pour les personnels de l'alimentation, etc. Et d'autres peut-être privilégier les vélos. Ceci étant, les transports restent quand même quelque chose d'écologique. Mais là, dans cette situation, on est dans une situation bien particulière. Et face à l'attente des usagers et des travailleurs de la RATP de vouloir protéger leur santé, je pense que là, on nous emmène sur quelque chose qui est plutôt un déconfinement de l'économie, et l'inquiétude est réellement là sur le terrain.
Pour être précis, sur vous parliez de la gestion des flux, si je comprends bien, c'est votre inquiétude principale. Quelle est concrètement votre inquiétude et quelle réponse vous n'avez pas sur ce sujet ?
La réponse, c'est... comme vous le disiez tout à l'heure, vous disiez que 60 stations de métro, par exemple, allaient être fermées. En temps normal, sur le réseau RATP Métro RER, c'est 363 stations et gares qui sont concernées, 60 sur la totalité. Vu le nombre de voyageurs que l'on transporte, il paraît difficilement et techniquement, humainement impossible de gérer l'entrée de chaque gare et chaque station de métro, la circulation dans les couloirs des enceintes ferroviaires, et après la distanciation qui doit y avoir, y compris sur le quai et à bord des matériels roulants, que ce soit d'ailleurs bus, tramway, métro et RER.
François-Xavier Arouls, co-secrétaire syndicat solidaire RATP, est avec nous en direct sur RMC. Une question, vous parliez tout à l'heure du moral et de l'inquiétude des salariés. Quelles sont les remontées qui vous ont été faites? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les salariés qui vont reprendre dès lundi?
Écoutez, la plupart ne veulent pas tous revenir au boulot au vu des annonces, y compris... uniquement concernant la RATP et le groupe RATP, la PDG l'a annoncé, on a 7 morts parmi les salariés de la RATP spécifiquement au niveau de l'EPIC, et deux autres dans le groupe, et notamment du Royaume-Uni, et le nombre de salariés qui ont été en arrêt pour Covid, etc. Cette inquiétude, elle est toujours là. Et ça, ne pas savoir comment tout ça va être réellement géré, parce qu'on n'a pas su très clairement nous répondre sur cette gestion point par point, terminus par terminus, tramway, bus, et bien évidemment inquiétante. Après, il y a le courrier qu'ont envoyé l'ensemble des transporteurs, RATP, SNCF, au Premier ministre en date du 30 avril, qui le dit lui-même, ce courrier. Il dit que les transporteurs s'inquiètent de leur capacité technique et humaine à pouvoir gérer l'affluence voyageur. C'est bien de cela qu'il est question. Et nous, en tant que travailleurs, nous sommes depuis le début, pour la plupart, en tout cas, qui avons continué à travailler pour pouvoir transporter d'autres métiers essentiels. On sait ce que c'est, et la réalité du terrain, on la pratique, les salariés la pratiquent, et il n'y a pas de réponse par rapport à ça.
Restez avec nous, François-Xavier Arouls. Nous sommes aussi en direct par téléphone avec Olivier Razemont, journaliste spécialiste des transports. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Est-ce qu'on a déjà vu, Olivier, une situation comme celle que s'apprête à vivre la France en termes de transport? Alors là, on est spécifiquement sur l'Île-de-France, qui va concerner plusieurs millions de voyageurs à partir de lundi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans l'histoire?
Vous connaissez la réponse.
La réponse
non,
est oui.
Évidemment. Non, on n'a jamais vu. On n'a jamais vu une situation pareille, bien sûr. On a une situation où il y a dans le métro à Paris, Paris est proche banlieue, 1 million de personnes en temps normal par jour. Et là, compte tenu des distanciations, du nombre réduit de rames, il y en a 1,5 million seulement qui vont pouvoir rentrer dans le métro. Alors en fait, c'est pas un retour. Non, je suis désolé de vous contredire, mais c'est pas un retour à la normale. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une situation anormale qui se poursuit, simplement avec un peu plus de monde dans les transports parce qu'il y a un petit peu plus de monde qui va aller travailler. Mais en fait, le message clair, c'est continuer le télétravail. Ça repose beaucoup sur les usagers. Hein. Malheureusement, la personne précédente l'a très bien dit, malheureusement, ça, ça repose assez peu sur, parce que c'est très compliqué d'organiser l'accès aux gares et aux stations de métro, et aux bus aussi. Les voyageurs, les chauffeurs de bus peuvent prendre 26 personnes par bus. Mais que font-ils quand la 27e personne se présente, par exemple? Donc voilà, ça repose énormément sur le bon sens des usagers, sur le bon sens du personnel. Et donc, on a une situation qui reste totalement exceptionnelle. Et dans ces conditions, il y a effectivement la démobilité, le télétravail, le vélo, vous l'avez dit, évidemment, pas parce que tout le monde va aller à vélo, personne ne dit ça, mais parce que dès qu'on peut, parce que si c'est pour faire quelques stations de métro, si c'est pour faire deux ou trois stations de RER, maintenant il y a des pistes cyclables qui ont été aménagées pour sécuriser ces déplacements, en très peu de temps, en 15 jours, dans certains endroits, il y a des nouvelles pistes cyclables provisoires qui sont là pour décharger, en fait. L'objectif, c'est d'enlever le maximum de gens des transports publics. Pour vous donner simplement une idée, si on prend la ligne 13 du métro parisien, qui est connue, qui est l'une des plus chargées, si on enlève 5% des gens en temps, qui sont en temps normal, et si chacun de ces 5% prend sa voiture, il faut 4 files de voitures supplémentaires. Donc ça ne tient pas, en fait. C'est une question d'espace. C'est une question de pollution, mais ça, c'est, je ne dirais pas que c'est accessoire, mais ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment une question d'espace dans cette région hypertrophiée et énorme qu'est la région parisienne, où il y a tant de monde et tant de gens qui se déplacent. En fait, c'est organiser l'espace de façon à ce que ça se passe le moins mal possible.
François-Xavier Arouls, co-secrétaire du syndicat Solidaire ATP, est avec nous. Est-ce que vous voulez réagir au propos d'Olivier Razemont, journaliste spécialiste des transports?
Oui, effectivement, ça a très bien été dit, comment on gère tout ça, y compris comment on peut garantir que les personnes qui vont se déplacer, en tout cas, on espère que ça sera réduit et qu'on ne sera pas tous dans des situations assez compliquées à gérer. Mais comment aujourd'hui on fait pour gérer ça, notamment le contrôle des attestations? Nous, côté Solidaire RATP, nous considérons que c'est pas aux agents de la RATP de vérifier les attestations de chaque usager qui va emprunter les transports.
Et ça, quelles sont les consignes, justement, par exemple,
est-ce que vous avez un accompagnement, par exemple?
Écoutez, ce qui avait été demandé du côté de l'entreprise, c'est certainement un accompagnement avec les forces d'ordre. Il nous semblait avoir entendu que c'était positif. Mais est-ce que ça sera le cas partout? Je veux dire, on va se concentrer forcément sur les gares les plus importantes, ce qui paraît logique, et en fermant d'autres, ça permet de ramener les personnes dans ces gares-là. Mais ceci étant, n'importe quel voyageur, il y a des voyageurs qui habitent en plein milieu de Paris, il y en a d'autres qui sont dans le Nord, et comment toutes ces personnes-là, on peut garantir qu'elles se déplacent pour un déplacement lié à son métier, ou un déplacement par rapport à la santé, etc.
François-Xavier,
on n'a pas à le faire. Ouais. On n'a pas à le faire.
J'ai une dernière question.
Il y a une tolérance Allez-y. De 2-3 jours quand même pour l'attestation.
Olivier Razemont.
Pour le masque.
Oui,
le masque,
tout à fait.
Mais pour l'attestation, ça a été dit quand même. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement. Et on sait aussi que lundi, sans doute, ne sera pas la journée la plus chargée. Oui. Pour des raisons assez simples. Alors, le télétravail va continuer. Les commerces vont beaucoup rouvrir plutôt mardi, ou alors pas ouvrir directement aux clients. Donc voilà, il y a quand même toute une série d'éléments, ça va être progressif. Ça nous laisse quand même 2-3 jours de battement.
Nous sommes en direct sur RMC à 20h18 avec François-Xavier Arouls, le co-secrétaire syndicat solidaire à la RATP. Nous sommes également avec Olivier Razemont, journaliste spécialiste des transports. Une dernière question pour vous, François-Xavier Arouls. Est-ce que lundi, dans un peu plus de 24 heures, vous serez présent au travail? Est-ce que tous vos collègues seront présents également?
Écoutez, aujourd'hui, on sait qu'on va avoir beaucoup plus de personnel que pendant la pandémie. Oui, je serai présent sur le terrain comme je l'ai été depuis maintenant plus d'un mois. Ça a été le cas ce matin et ça sera le cas demain matin, y compris dès 5h30 du matin, parce que mon service commence bien avant, même si la plage horaire est de 6h à 22h. Moi, je voulais juste vous dire... passer un message, en tout cas, au niveau de toute cette campagne... sur l'affichage dans les couloirs, etc., même si ça paraît du bon sens, ça participe quand même un peu à se déresponsabiliser vis-à-vis du risque potentiel qu'on pourrait faire courir aux travailleurs de la RATP et aux personnels prestataires de services qui travaillent pour la RATP, et potentiellement y compris pour les usagers. Ce n'est que de la com. On sait qu'on n'y arrivera pas, donc il faut limiter les déplacements aujourd'hui.
Merci François-Xavier Arouls. Je rappelle que vous êtes co-secrétaire du syndicat Solidaire RATP. Merci d'avoir été avec nous ce soir et bon courage pour lundi et cette première journée de déconfinement.
Merci, bien.
Bon courage.
Nous sommes toujours avec Olivier Razemont, journaliste spécialiste des transports. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit il y a quelques minutes, Olivier Razemont. 5% des utilisateurs de la ligne 13, si 5% seulement prennent leur voiture, ça fait 4 voies à rajouter. J'ai bien entendu ce que vous avez dit ?
Oui, c'est ça, oui, c'est un calcul de la ville de Paris. Oui.
D'accord.
En fait, c'est assez simple. Hein. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que la ligne 13 est très congestionnée et qu'il y a à peu près 8 voire 10 personnes par mètre carré. Ouais. Ça signifie par ailleurs qu'une voiture prend beaucoup d'espace. Donc en fait, c'est ça. Les transports en commun, pourquoi est-ce qu'ils sont efficaces dans une région dense ? Ils prennent finalement, ils transportent beaucoup de monde dans peu d'espace. Mmh. Et là, ce qui se passe en ce moment, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont transporter quand même pas mal de monde, mais quand même beaucoup, beaucoup moins que d'habitude. Donc on a vraiment un rapport à l'espace. Hein, quand on regarde la mobilité en général, on s'interroge parfois sur le coût de la mobilité, sur la technologie, on se demande si c'est vrai gratuit, etc. En fait, tout ça est un peu accessoire au regard de l'enjeu, mon avis, essentiel dans les zones denses, qui est comment on répartit l'espace entre les usagers et entre les usages.
Olivier Razemont, je le rappelle, vous êtes journaliste spécialiste des transports. Est-ce que le mètre de distanciation sociale entre les utilisateurs du métro est utopique ou est-ce qu'il est réalisable ?
On verra. Si on a toute une série de en fait, il n'y a pas de solution unique. Mais si les gens continuent à télétravailler, si au lieu de se déplacer à l'autre bout de la ville pour aller faire une course, on reste dans son quartier. Si les employeurs disent arrivez plutôt à 11h du matin qu'à 9h du matin comme tout le monde. J'ai pas vu beaucoup passer de choses d'ailleurs au passage. J'ai pas vu beaucoup d'employeurs qui soient engagés dans ce secteur-là. Ce serait intéressant qu'ils le fassent vraiment et pas juste qu'ils répondent aux injonctions de la région. Des gens se disent je marche, je vais à vélo. Il y a plein de gens en ce moment qui sont en train d'acheter des vélos, de faire réparer des vélos parce qu'ils savent qu'ils pourront de toute façon pas rentrer dans les transports. Ils ont pas envie de prendre le métro. D'une part, et puis ils laissent la place en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui ont des courts trajets en métro, laisser la place aux autres, à ceux qui en ont vraiment besoin, laisser la place dans les transports à ceux qui en ont vraiment besoin, laisser la place aussi dans les voitures à ceux qui en ont vraiment besoin. Et prenez votre vélo, c'est pour faire 5-10 km, c'est possible. Maintenant qu'il y a des, qu'on les appelle les coronapistes, hein, les pistes cyclables provisoires, empruntez-les, ça sera pas forcément parfait. Et puis, limitez les déplacements. Je pense que le message, je veux pas relayer nécessairement tout ce qui est dit par les autorités, mais c'est quand même ça. Hein.
Oui, on rappelle que la ville de Paris, effectivement, a créé 50 km de pistes cyclables prises sur des voies habituellement réservées aux voitures. Justement, Olivier Razemont, quand on fait le bilan de tout ça, est-ce qu'on risque d'avoir un lundi noir ? Et encore, lundi, ce sera qu'un début de retour, mais une semaine et même dans les semaines à venir, sur le trafic routier également, puisque beaucoup de Français vont reprendre leur voiture, est-ce qu'on peut avoir une situation totalement saturée en Île-de-France ?
C'est ce que tout le monde anticipe. Clairement, c'est ce que tout le monde anticipe. Et c'est un des risques. Alors, c'est un risque écologique, on l'a dit, mais c'est aussi un risque de congestion. C'est-à-dire que habituellement, si on avait l'habitude de mettre une demi-heure ou trois quarts d'heure, si jamais vraiment en voiture, ben là, on risque de mettre une heure et demie parce que il y aura des bouchons, tout simplement. Donc, c'est une des hypothèses, et c'est ce qu'on a vu à Wuhan il y a quelques semaines. Donc, ça peut arriver. Donc, en fait, c'est pour ça que ça demande. Alors, c'est pour ça que c'est compliqué. Parce que ça repose là encore sur la responsabilité de chacun.
Olivier Razemont, sur cette histoire Elisabeth Borne, sur les voitures, a conseillé le covoiturage. Comment faut prendre ce conseil qui est un peu étonnant au premier abord quand même dans la période dans laquelle on vit. On a du mal à imaginer se confiner avec des
individus. En fait, une voiture, c'est assez grand, en fait, en réalité, pas du tout pour être l'un à côté de l'autre, mais en diagonale. D'ailleurs, les taxis vont bien fonctionner, les chauffeurs privés aussi, etc. Et donc, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a le conducteur qui est devant et devant à gauche, et puis à l'arrière-droite, il y a le passager et les covoiturages seulement deux personnes. Mais ça suppose aussi probablement l'avoir déjà fait. Il n'y a pas de système covoiturage en Île-de-France. Il faudrait là aussi des voies réservées, des parkings réservés. Ça n'existe pas encore. Il y a eu des vagues ébauches au moment des grèves. Au passage, je dirais que de manière plus générale, les grèves ont été, si vous permettez, un coup de peau, parce que finalement, on a une sorte de répétition générale. C'est-à-dire que tous les gens qui sont mis au vélo, ben ça y est, ils sont tirés d'affaire. Tout le télétravail qui est permis parce que les serveurs étaient à fond, ben ça a été possible et c'est encore possible maintenant. Le covoiturage, par contre, ça a manqué d'organisation et je pense que le covoiturage, ça peut se développer à condition que les gens se connaissent déjà et qu'effectivement ils respectent cette distance-là en diagonale.
À condition de pas avoir une smart comme Oussem, parce que du coup, pas de place voilà, derrière. Donc, merci Olivier Ramon d'avoir été en direct sur RMC ce soir. Il est 20h24. On s'intéresse à ce jour 1 du déconfinement, lundi, la reprise progressive dans les transports, notamment en Île-de-France. Et nous sommes en direct avec Pierre Chasseret, le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonsoir Pierre Chasseret.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous. Je ne sais pas si vous avez pu entendre un petit peu depuis 20h, on est sur ce thème. On s'intéresse à cet aspect, la voiture, le risque de saturation en Île-de-France, parce que il y a les transports en commun, l'offre sera réduite évidemment, il y a toutes ces mesures qui vont empêcher beaucoup de Français de prendre les transports en commun. Et puis il y a les Français qui habitent en banlieue, si on s'intéresse à l'Île-de-France, qui travaillent sur Paris, eux devront prendre la voiture. Comment ils vont faire ? Ah, on a perdu Pierre Chasseret. Est-ce que vous m'entendez ? Allô, je crois qu'on a perdu Pierre Chasseret. Peut-être que
ma question va laisser sans voix. Tout à l'heure, Pierre Chasseret, normalement, il devrait être avec nous.
Arthur Perrault, réessaye de le rappeler une dernière fois. Le temps pour moi de vous rappeler qu'on est ensemble en direct jusqu'à 22h, que c'est mobilisation générale, que vous êtes sur RMC, qu'on s'intéresse jusqu'à 21h à toute l'actualité autour du coronavirus, les explications, les analyses. Et puis après 21h, on vous aide à mieux vivre ce confinement et ce début de
déconfinement.
Il est 20h25, Pierre Chasseret ne répond pas. On le rappellera une autre fois.
Ta connexion a été perdue, comme on dit dans le milieu. Voilà.
Il est 20h25, mobilisation générale continue dans un instant. La Corse veut contrôler les touristes avec un passeport un peu spécial. Ah. Il s'agira d'un test négatif au coronavirus. On en parle dans un instant avec Jean-Philippe Sacco-Aviva, député de Haute-Corse.
RMC, mobilisation générale, plus fort ensemble.
Oussem Loussaïef, Thibaut Giangrande.
20h27, merci de passer ce samedi soir en notre compagnie. On est ensemble en direct jusqu'à 22h. Ensuite, ce sera l'after. Oussem, dans un instant, en direction la Corse.
Ah oui, l'Assemblée de Corse a voté un projet de sortie du confinement prévoyant un dispositif de gestion des passagers entrants. En gros, à partir du 23 juin, il faudrait être négatif au Covid-19 pour aller en Corse. On en parle avec Jean-Félix Acquavive, député de Haute-Corse.
Mais si tout va bien, à 20h27, nous sommes en direct avec Pierre Chasseret. Pierre Chasseret, êtes-vous là ?
Êtes-vous là, Pierre Chasseret ?
Ouais, je suis là, c'est Orange qui me fait des misères, mais enfin, je dois pas être le seul enfant.
Ouais, oui. Être chez SFR, on vous l'a déjà dit.
Peut-être, ou Wingle, on ne sait pas. Vous êtes délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes et on s'intéresse avec vous à cette reprise du trafic pour des millions de Français, cette reprise du travail à partir de lundi 11 mai.
Tu parlais de banlieue.
Est-ce que l'offre des transports vous semble cohérente, sachant que évidemment il y a beaucoup de recommandations, mais il y a aussi la réalité des Français qui habitent en banlieue, qui viennent travailler à Paris, et pour eux ce sera compliqué de se passer de la voiture, on imagine.
Vous savez, en ce moment, j'entends beaucoup de discours avec des faux-nés, certains qui se font passer pour des spécialistes de la mobilité, mais qui en fait sont des militants pro-vélo, en fait, sur le développement du vélo en ville. La réalité, c'est pas ça. Moi, je vais vous dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Personne n'a envie de mettre un pied dans les transports en commun. C'est clair, net et précis. Personne n'a envie de se retrouver confiné dans une ligne de métro. Personne n'a envie d'aller dans le bus. Voilà, ça c'est la réalité. Alors, quel va être le réflexe de ceux qui habitent notamment aux abords des grandes villes ? Eh bien, le réflexe qui est audible, il faut l'entendre. Ils vont vouloir se protéger les leurs, protéger les plus proches, protéger ceux qu'ils aiment et finalement respecter la suite du confinement. Eh bien, la suite du confinement, la suite logique, c'est l'habitacle de l'automobile. Et c'est comme ça. On ne peut pas en vouloir à des Français, moi le premier, je ferai partie de ceux-là, qui vont avoir la tentation de leur auto pour se mettre en sécurité. Le problème, c'est qu'à travers...
Pierre Chasseret, on vous a perdu à nouveau, je crois. Au moment de, voilà, vous avez dit le mot problème et tout de suite, je crois qu'il y a des mots à ne pas dire. Est-ce que vous êtes là, Pierre Chasseret ? Bon, on vous a perdu. Difficile. On était au début de la discussion.
Pierre Chasseret l'avait dit. Hein, voilà. La connexion est très compliquée.
En tout cas, on a compris qu'évidemment, pour des millions de Français, ce sera compliqué.
Que la voiture présente quand même aussi une opportunité supplémentaire pour le déplacement en région parisienne et dans toute la France.
RMC, il est 20h30 pile, c'est mobilisation générale, on est en direct jusqu'à 22h et on espère que les prochains intervenants qui vont
ont une bonne connexion.
Très
important.
Capte, est-ce que par exemple en Corse ça capte, on va voir ça dans un instant. On va parler un peu de positif dans cette période, on va parler vacances. Oussem, t'emmènes quoi quand tu pars en vacances ?
J'emmène ma femme déjà.
Ouais,
c'est déjà bien. Pas mal. J'emmène des bouquins.
Menteur, mais OK.
C'est vrai, je mens.
Mais si jamais tu veux aller en Corse, il va peut-être te manquer quelque chose. Ton test négatif
au coronavirus. L'Assemblée de Corse a voté jeudi un projet de sortie du confinement prévoyant un dispositif de gestion des passagers entrants. En clair, à partir du 23 juin, toute personne souhaitant entrer sur l'île de Beauté devra présenter un test négatif au Covid-19. Bonsoir Jean-Félix Acquaviva.
Bonsoir.
Vous êtes député de Haute-Corse. Pourquoi vous voulez mettre en place cette mesure ?
Bien, écoutez, la Corse est une île. La Corse est une île où les flux touristiques sont saisonniers, c'est-à-dire le gros des flux arrivant se situe entre juin et août, évidemment. Et la Corse a été un bon élève en termes de confinement individuel, puisque c'est là où le virus a le moins circulé, même s'il était durement frappé au départ. Alors, c'était dû à une bonne discipline des insulaires, mais aussi au fait qu'on est faiblement peuplé, 340 000 habitants, et éclaté sur le territoire. Et là, évidemment, la question du passeport sanitaire, c'est-à-dire sur les flux aériens et maritimes, ce n'est pas une façon de faire de la discrimination, c'est tout simplement que 400 000 personnes, admettons, c'est-à-dire soit 120% de la population résidente qui se déplacerait d'un coup sur deux mois en incertitude, que nous vivons tous aujourd'hui, parce qu'il faut vivre avec le virus, en incertitude sanitaire, cela peut provoquer un rebond. Et ce rebond peut saturer les structures hospitalières. Il peut justement relancer l'angoisse et l'anxiogène des insulaires qui pensent être sortis du virus, mais aussi il peut être anxiogène pour l'ensemble des touristes qui viennent. Et donc à partir de là, la question d'un passeport sanitaire, d'un green pass, c'est à la fois un argument de santé publique, c'est-à-dire permettre des tests et des contrôles, mais aussi un argument de sécurisation de la destination touristique pour l'ensemble des personnes qui voudraient se rendre dans l'île.
Jean-Félix Acquaviva, député de Haute-Corse, est avec nous en direct sur RMC. Monsieur le député, est-ce que vous n'avez pas peur que ça refroidisse les touristes ?
Je crois qu'à mon avis, le marché et les touristes sont aujourd'hui, quoi qu'on en dise, refroidis par le contexte de la possibilité du rebond partout. Je ne suis pas sûr que les gens aient volonté de se déplacer comme ça aussi facilement, comme si les choses étaient terminées. Je crois que l'angoisse du rebond, l'angoisse du virus est plus forte que ce que je viens de développer. Et justement, la question du Green Pass, c'est sécuriser cela. Parce que, je prends un exemple, 40% des personnes qui se rendent en Corse habituellement en tourisme ont plus de 65 ans. Vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, ouvrir les vannes va faire en sorte qu'elles puissent se déplacer en Corse de la même façon qu'elles faisaient les années précédentes ? Nous savons que non. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois de la pédagogie à faire d'un point de vue sanitaire et il y a à la fois de la pédagogie à faire du point de vue économique. Oui, vous pourrez vous rendre en Corse. Bien sûr que le risque n'est pas zéro. Il faut vivre avec, même avec un test et un passeport sanitaire. Mais en tout cas, l'ensemble des pouvoirs publics se mettent à disposition pour que la destination touristique soit sécurisée le maximum possible et aussi protège à la fois la population résidente et la population touristique.
Jean-Félix Acquaviva, est-ce que vous auriez les moyens de mettre en œuvre ce dispositif, les moyens humains ? Ça veut dire faire des tests aussi ? On a beaucoup parlé du manque de tests. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir les moyens de faire ça ?
Mais les moyens, ça dépendra d'une co-construction avec l'État. La collectivité de Corse n'a jamais dit qu'elle ferait ça toute seule. Aujourd'hui, la compétence sanitaire appartient à l'État. Et d'ailleurs, je ferai remarquer que dans le projet de loi urgence, le gouvernement lui-même, sans attendre l'avis de la collectivité de Corse, a mis une capacité de quarantaine donnée au préfet de Corse, y compris de régions françaises vers la Corse. Ça veut dire que la question d'être une île a déjà été appréhendée par le gouvernement sans même que l'on en ait discuté. Donc aujourd'hui, il faut donner un contenu à cette capacité de quarantaine. Il ne faut pas que ça soit au doigt mouillé. Il faut que ça soit à travers un processus tranquille, bien démontré, qui permette de sécuriser, qui permette de faire en sorte que l'on puisse éviter le rebond. Parce que si vous avez un rebond au mois de septembre, non seulement ça sera l'angoisse et le redémarrage et la sissiparité au sein de la société insulaire, mais de surcroît, tous ceux qui se seront remis à redémarrer économiquement avec les coûts de redémarrage se verraient être sciés dans leurs jambes et leurs mollets après le redémarrage, parce que septembre d'habitude est un bon mois touristiquement.
Jean-Félix Acquaviva, vous êtes député, vous, de Haute-Corse. Est-ce que toute la Corse est pour ce projet et vous suit dans ce projet ?
Écoutez, il peut y avoir des voix dissonantes. Ceci étant, les voix dissonantes, elles sont aujourd'hui politiquement minoritaires, puisque la majorité de l'Assemblée de Corse a délibéré. Et les voix dissonantes, je remarque, qu'elles soient politiques ou lobbyistes, elles ne proposent pas d'autre alternative, si ce n'est d'ouvrir. Mais ouvrir n'est pas une politique en soi, lorsque l'on sait statistiquement et en probabilité la possibilité du rebond. Le virus n'est pas parti. Il est toujours là, à moins que le professeur Raoult ait raison, mais à ce moment-là, nous n'avons pas encore les résultats de savoir si ce virus partirait pour des raisons saisonnières. À l'heure où l'on parle, toute l'Europe, tout le monde entier vit avec le virus. Donc, faire en sorte que 120% de la population, l'équivalent de 120% de la population résidente, arrive d'un coup sur deux mois dans l'île, ça augmente de fait, quand on est responsable, s'entend, la probabilité du risque. Surtout dans une île où la population âgée est de 35% au lieu de 25% à l'échelon national, où la population immunodéficiente liée au cancer est supérieure qu'au niveau national. Donc, en responsabilité, lorsqu'on est responsable face à une crise historique, il faut tracer un chemin, même en incertitude. Et tracer un chemin, c'est le chemin qui permet à la fois de protéger la santé, les populations, la santé publique, et en même temps de sécuriser la destination touristique et d'en faire un argument face au marché, parce que aujourd'hui l'angoisse est telle que les déplacements ne se feront pas parce que les gens ont peur de se déplacer liés au virus.
Jean-Félix Acquaviva, député de Haute-Corse, est en direct sur RMC à 20h36. On s'intéresse à ce projet de sortie du confinement voté par l'Assemblée de Corse jeudi, qui prévoit un dispositif de gestion des passagers entrant, en gros, son test négatif pour pouvoir rentrer sur le territoire. On évoquait des voix dissonantes, Jean-Félix Acquaviva. Ces voix avancent comme argument qu'un touriste peut être testé négatif 3 jours avant d'entrer en Corse et devenir positif le lendemain. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ?
Et je réponds que nous sommes d'accord qu'il y a une incertitude, mais ce que nous proposons est plus haut que ce qui est proposé par ailleurs, c'est-à-dire de ne pas tester ou simplement prendre la température aux doigts mouillés, qui est le risque le plus haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est-à-dire un test au départ, une évaluation et un contrôle avant de repartir, qu'on le veuille ou non, ce sont des mécanismes qui resserrent la maille du filet du risque par rapport à l'ouverture tout azimut qui, d'un point de vue de la probabilité, augmenterait considérablement le risque de rebond. Et le risque de rebond n'est ni bon d'un point de vue santé publique, ni bon du point de vue du service public, du système hospitalier, et je rends hommage aux héros du système hospitalier, y compris en Corse, qui craignent aussi cela, et bien sûr ne serait pas non plus bon d'un point de vue économique, parce qu'au mois de septembre, se faire scier les jambes d'un point de vue de la saison touristique, ça serait encore plus catastrophique. Donc il faut être responsable. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise historique. La responsabilité, c'est assumer des choix selon différents facteurs et même en incertitude. Je répète que ceux qui sont en train de décrier ce dispositif n'ont pas d'alternative, si ce n'est d'ouvrir les vannes, purement et simplement. C'est inconsistant et irresponsable.
Le projet a été voté jeudi, Jean-Félix Acquaviva. Quelles sont les étapes maintenant pour que ça devienne vraiment effectif, que ce test soit obligatoire pour entrer en Corse ?
Et écoutez, nous n'avons pas fait mystère que la délibération de l'Assemblée de Corse a été aussi portée d'ailleurs par des amendements que j'ai pu porter hier en projet de loi d'urgence face au gouvernement pour essayer de l'inscrire dans la loi. Cela a été refusé, même si d'autres groupes que mon groupe, je pense au groupe communiste, France Insoumise, socialiste, se sont joints à la loi pour essayer de faire passer cette adaptation dans la loi. Mais néanmoins, comme je l'ai déjà précisé, le projet de loi d'urgence du part de l'initiative du gouvernement prévoit un mécanisme déjà de quarantaine permis au préfet. Donc c'est déjà été inscrit par le gouvernement lui-même, sans attendre l'avis de l'Assemblée de Corse. À partir de là, il y a une discussion que nous espérons fructueuse, qui naîtra entre le préfet, le gouvernement et la collectivité pour donner un contenu à ce dispositif de quarantaine, ce qui veut dire un passeport sanitaire. Ce passeport sanitaire, encore une fois, je le répète, il a un volet santé publique et un volet sécurisation de la destination touristique. Et je sais déjà que d'autres destinations risquent d'aller dans ce sens. Et je rappelle aussi que Malte, l'Islande, applique une quarantaine aujourd'hui obligatoire, notamment pour les flux touristiques entrants, et avec des tests, et en font un argument aussi touristique, en plus d'un argument santé publique. Donc nous ne sommes pas les seuls à raisonner en termes île en Europe de cette façon-là.
Ce sera ma dernière question, Jean-Félix Acquaviva, mais si demain j'ai envie d'aller en Corse, quand est-ce que je saurai si oui ou non je devrais faire ce test ? Est-ce que vous avez une date à peu près butoir à laquelle...
Écoutez, l'Assemblée de Corse, la collectivité de Corse, le conseil exécutif s'est donné jusqu'au 23 juin pour mettre en place le dispositif. Donc il y a un processus de montée en puissance progressive de co-construction, mais cette co-construction doit engager l'État qui a la compétence sanitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la collectivité de Corse, l'Assemblée de Corse n'est pas autonome, même si nous sommes autonomistes, nous n'avons pas cette compétence. C'est une proposition qui nécessite à ce que le gouvernement et l'État soient d'accord.
Donc on serait fixé en juin.
Et ensuite, il y a un processus de mise en place, notamment en montée en puissance des tests, en montée en puissance des moyens humains de contrôle et d'évaluation à la fois sous l'angle médical mais aussi sous l'angle des ports et des aéroports, qui permettrait de sécuriser et de fluidifier la capacité de faire ce dispositif.
Merci Jean-Félix Acquaviva d'avoir été en direct sur RMC ce soir. Bonne soirée à vous, merci beaucoup. Bonsoir Jean-Paul Stahl.
Bonsoir.
Vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Grenoble. Cette mesure que veut mettre en place l'Assemblée de Corse a-t-elle une utilité selon vous ?
Déjà, si je peux me permettre de réagir sur le plan personnel, c'est un petit peu comme si, pour mon département, qui est l'Isère, on imposait un test négatif pour rentrer dans le département de l'Isère. Donc,
oui, c'est pareil.
Je suis un peu surpris. Mmh. Je suis un peu surpris. Moyennant quoi, il faut reconnaître que la Corse a une spécificité avec énormément de vacanciers potentiels et un système hospitalier qui n'est pas dimensionné pour cette activité d'été si jamais il y avait une épidémie. Et l'organisation hospitalière est dimensionnée pour l'hiver, ce qui est évidemment complètement différent. Donc effectivement, on peut imaginer un souci. Maintenant, quelle est la technique ? C'est-à-dire, sur le plan scientifique, qu'est-ce que c'est ? On parle de quoi ? Alors, on parle de dépistage virologique, c'est-à-dire d'une PCR. La PCR, elle vous dépiste du virus ou des morceaux de virus, et la distinction est très importante, c'est-à-dire des morceaux du génome, mais pas du tout du virus lui-même infectant. Donc, la PCR dépiste indifféremment l'un ou l'autre, et au moment où on fait le test. C'est-à-dire, ça ne préjuge pas de ce qui va arriver le lendemain, le surlendemain ou la semaine d'après. Donc, je pense que déjà, en soi, c'est une protection un peu illusoire, parce qu'elle va laisser passer toutes les personnes qui sont en incubation. Le deuxième point, c'est que la performance du test est grossièrement de 70%, c'est-à-dire que ça laisse passer en plus 30% de personnes qui sont des faux négatifs. Mmh. Et puis, dans les positifs, vous avez tous ceux qui sont positifs, mais avec du génome de virus et pas du virus infectant. Donc ceux-là, ils vont être pénalisés à tort, puisqu'ils ne sont plus contagieux. Et vous rajoutez à ça le fait que ce qui est important, c'est dans l'environnement d'un patient positif, il faut isoler toutes les personnes contacts qui ne sont pas encore positifs, mais qui peuvent le devenir une semaine plus tard. Donc, dans un bateau, par exemple, si vous avez côtoyé X personnes, vous êtes positif, à ce moment-là, c'est tout le bateau qui est interdit de débarquer. Exactement la même chose pour un avion. Donc, je pense que sur un plan strictement scientifique, il y a énormément de trous là derrière qui me rendent cette mesure à mes yeux, un peu illusoire.
Jean-Paul Stahl, donc vous dites une mesure illusoire, vous parlez de tests virologiques donc qui seraient faits. Si je comprends bien vos mots, les tests virologiques ne pourront jamais anticiper les mouvements. Alors qu'est-ce qu'il faut attendre ? Il faudrait attendre qu'il y ait des tests sérologiques plutôt pour qu'on puisse faire ce que souhaite faire la Corse ?
Sérologique, c'est encore pire. C'est-à-dire que la sérologie, elle vous dépiste des anticorps. C'est-à-dire le fait que vous avez été en contact dans le passé avec le virus. Donc, c'est effectivement un test qui pourrait servir à supposer qu'on ait démontré de façon formelle, ce qui est assez vraisemblable, mais ce n'est pas encore fait, qu'on ait démontré que les anticorps dépistés ainsi sont protecteurs. Ça voulait dire que vous ne laissez rentrer en Corse ou ailleurs que les personnes qui sont positives. Et vous ne les, parce que ceux-là sont protégés. Ils ne transmettent plus le virus parce qu'ils sont guéris. Et donc, vous les interdisez d'entrer, tous ceux qui sont négatifs. C'est-à-dire, à peu près, si on
se fie,
à peu près 94% ouais. des personnes.
Et est-ce que vous reconnaissez quand même l'argument avancé à l'instant par Jean-Félix Acquaviva, le député de Haute-Corse qui était avec nous, qui, en résumé, reconnaît que ce n'est pas parfait, mais dit que c'est une protection minimum. C'est au moins, si on en filtre quelques-uns, ce sera ça de gagné.
On peut toujours l'imaginer. Effectivement, c'est simplement un dispositif qui a tellement de trous que ça n'empêchera jamais une dissémination épidémique.
On est sur RMC, on essaie de tirer le positif de cette situation, Jean-Paul Stahl. Dans deux jours, c'est le début du déconfinement. À votre avis, vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Grenoble. On a besoin d'être rassuré un peu. Elles seront comment nos vacances cet été, à votre avis, d'un point de vue personnel ? Est-ce qu'elles seront forcément différentes de celles de l'été dernier ?
Elles sont forcément différentes dans le sens que déjà, les vacances à l'étranger sont compromises. Donc ça, c'est déjà différent.
Et les vacances en France, alors, si par exemple
de très nombreux compatriotes.
Ouais.
Alors après, les vacances en France, Oui, parce qu'il y a, il y aura à conserver des mesures de distanciation physique telles qu'elles sont préconisées pour ne pas faire repartir l'épidémie. Ça, c'est vrai. Donc, il y a un changement de comportement dans le quotidien. Mais il ne faut pas non plus verser dans la paranoïa et dans la folie. Je voyais tout à l'heure sur une chaîne de télévision de l'escalade où un rocher est dédié à une personne. On confine à l'absurde. On confine à l'absurde. C'est comme si moi je vous disais que l'escalade à la neige est réservée à un alpiniste et puis derrière on désinfecte.
Chacun sa montagne.
Ça n'a aucun sens.
Chacun sa montagne.
Voilà, chacun sa montagne. Mais ça n'a absolument aucun sens. Donc il faut rester raisonnable. Ce qui transmet le virus, c'est le contact respiratoire. C'est-à-dire la distance de 1,50 m à peu près entre les personnes. C'est ça l'immense majorité de la contamination, l'immense majorité. Après que le contact manuporté, c'est-à-dire par les mains, par les objets, etc., puisse être évoqué, c'est vraisemblable. Ça n'a pas encore été démontré pour le coronavirus qui nous préoccupe tous, mais il est vraisemblable qu'il y a cette transmission et donc se laver les mains est une bonne chose, parce que déjà, c'est pas très compliqué. Mais au-delà, je veux dire, il faut pas verser dans la folie, quoi.
Pas très compliqué, ouais. Et puis on nous a bien montré comment faire hein, aussi au début de l'épidémie, il y a 2 mois, c'est là qu'on a vu beaucoup de reportages.
Pour le lavage de mains,
pendant 1 minute 30, on nous a bien montré. Merci Jean-Paul Stage d'avoir été en direct sur RMC ce soir. Bonne soirée à vous, chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Grenoble. Tu les sens bien tes vacances cet été, Oussem, ou pas?
Bien sûr, je vais rester ici,
ouais,
tout simplement.
Voilà,
simplement.
Région parisienne. Il est 20h47, mobilisation générale est en direct jusqu'à 22h, après 21h. On bascule sur le côté confinement positif. Voilà, les bonnes idées pour mieux vivre le confinement et le déconfinement qui sera progressif à partir de lundi. Et dans un instant, on s'intéresse à ces 10 millions de litres de bière qui vont être détruits.
Situation incroyable.
Situation incroyable. On vous attend au 32-16.
RMC, mobilisation générale, plus fort ensemble.
Oussem Le Saïef, Thibaut Giangrande.
20h48, excellente soirée sur RMC. Oussem, bientôt 21h.
Ah ouais. Ça. Et oui, dans la deuxième heure, on va parler de poker et de Koh-Lanta avec notre ami Moundir aussi, qui travaille sur RMC, qui est un grand spécialiste de poker et donc de Koh-Lanta comme Thibaut. On va aussi parler avec notre héros du jour vers 21h30. Thibaut, si je te dis une légende du tennis français.
Ah là 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 là, ce bon vieux Gilles Simon.
Bien sûr que tu connais toutes tes légendes. Eh ben non, ça sera Henri Lecomte qui va venir nous parler d'une vente aux enchères à laquelle il a participé. Puis on va parler football avec Alassane Pléa, l'international français, qu'on retrouvera tout à l'heure.
À l'after après, à 22h. Alors, vous l'avez certainement remarqué, confinement oblige. On boit moins en ce moment, un petit peu moins d'alcool. Et si jamais vous ne l'avez pas remarqué...
Moi, c'est sûr, en tout cas, toi, ouais. Je ne sais pas.
Oui, moi un peu moins, mais si jamais vous ne l'avez pas remarqué, c'est peut-être le moment de se poser des questions, justement. Conséquence de cette baisse de la consommation, 10 millions de litres de bière vont être détruits. Les apéros virtuels n'ont pas suffi. Bonsoir Fabrice Le Goff.
Bonsoir.
Vous êtes brasseur à Saint-Denis et membre de Brasseurs de France. Alors, on va rentrer dans le détail, le pourquoi du comment, mais déjà, comment on détruit 10 millions de bières?
Alors déjà, on n'a pas prévu de les détruire demain matin. Hein. On anticipe... nos préoccupations de chefs d'entreprise, de brasseurs, aujourd'hui elles sont assez proches de ceux de monsieur et madame tout le monde, c'est trouver des masques, réussir à s'organiser pour redémarrer tranquillement l'activité. Mais c'est vrai que le ministère de l'Agriculture nous a demandé de réfléchir très vite et d'anticiper sur ce qui allait se passer pour ces stocks de bière qu'on n'a pas réussi à vendre et dont on sait pertinemment qu'on ne va pas réussir à les vendre en temps et en heure.
On ne peut pas les garder ?
On va pas toutes les garder, non. C'est impossible. L'économie s'est arrêtée déjà pour nous pendant 1 mois et demi. Et on ne sait pas quand ça va redémarrer. Je sais pas si c'est le 15 juin, le 15 juillet, c'est en septembre. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, on est une petite brasserie artisanale. Hein. On va pas à nous seuls détruire les 10 millions de litres de bière qui sont évoqués. Nous, on produit 400 000 litres de bière dans l'année, à peu près moitié en fût, moitié en bouteille. Okay. Donc, les moitiés en fût, ça veut dire que la moitié de cette consommation, elle est destinée au bar et éventuellement au restaurant. Et ça, c'est des choses qui sont totalement invendables aujourd'hui.
Parce que concrètement, il se passe quoi quand la bière est plus bonne? C'est quoi? C'est un petit plus? Okay.
Alors, c'est pas une question de pétillance.
D'accord.
C'est une question d'arôme. Donc, ouais. Chaque brasserie, et en fonction aussi des types de fabrication qu'on a, va décider qu'une bière a une DLUO. On parle de DLUO, on ne parle pas de DLC. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être empoisonné en buvant une bière qui a dépassé sa date limite. Mais tout comme un boulanger va vous dire « Moi, j'ai pas très envie de vous vendre un pain que j'ai fabriqué il y a 2 ou 3 jours, parce que ça va pas être top. » Moi, en tant que brasseur, j'estime que j'ai le droit de dire qu'une bière qui a passé la date maximale que je lui ai fixée pour avoir les goûts qui sont ceux que j'avais envie de donner à mes consommateurs, j'ai pas non plus envie de la vendre. On vient de vivre une période de confinement. Les gens n'ont pas pu aller dans les bars. J'ai pas spécialement envie que le jour où on va rouvrir les portes des bars, que ce soit pour en plus avoir la double peine et boire de la bière qui soit pas bonne.
Alors, Fabrice Le Goff, vous êtes brasseur à Saint-Denis et membre de Brasseurs de France. Il est 20h51 et figurez-vous que, bravo la France, ce sujet fait réagir. Ça appelle au 32-16. Bonsoir Pierrick.
Bonsoir,
merci de nous avoir appelé ce soir au 32-16. Ces 10 millions de litres de bière perdus dans les prochaines semaines t'ont fait réagir?
Alors, m'ont fait réagir oui et non, parce qu'en fait, je n'avais pas vu ce que ce monsieur vient de dire. Mmh. Donc, effectivement, moi, ce que j'avais répondu, c'est surtout qu'effectivement, il y a les bières, voilà, ce n'était pas des DLC, donc ça n'allait pas être périmé complètement. Mmh. Donc, il y a de la bière qui va pouvoir être consommée encore, il me semble.
Alors, ce monsieur a raison. C'est-à-dire que il ne faut pas vous dire que toutes les brasseries de France sont en train de rester arc-boutées sur la date limite.
Oui.
En fonction des processus de fabrication qu'on a, on a des bières qui sont un peu plus industrielles, qui sont filtrées, qui sont pasteurisées. Et les brasseurs vont faire en sorte d'étendre les DLUO autant qu'elles le peuvent. Il y a aussi une limite du raisonnable, c'est-à-dire que des bières qui ont été déjà brassées il y a un an et qui auraient dû être vendues il y a quelques mois, on va pouvoir étendre la date de quelques mois, mais on ne peut pas non plus faire l'impossible. Mais en tout cas, déjà, ne vous dites pas qu'on n'essaye pas d'étendre les dates. Mmh. Ensuite, quand on dit détruire, ça ne veut pas dire ouvrir les vannes et tout mettre au même niveau. On réfléchit aussi à des solutions alternatives. Par exemple, pour distiller cette bière et en faire quelque chose, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a un produit fini qui était destiné à être consommé en tant que bière et qu'on sait très bien qu'il y a une bonne partie de cette bière qui ne va pas pouvoir être consommée en tant que bière, mais dont il va faire autre chose et éventuellement la détruire.
Ouais. Après, ce qui va surtout être perdu, c'est celles qui ont déjà été branchées quand il y a eu les fermetures. Tout ça, par contre, c'est du produit qui est bon. Ça, c'est sûr.
C'est exactement ce que disait Fabrice Le Goff, brasseur à Saint-Denis. Merci Pierrick d'avoir appelé au 32-16. Fabrice, restez avec nous. On a un autre auditeur, une autre personne qui a appelé au 32-16. C'est Stéphane. Bonsoir Stéphane.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Stéphane. Donc vous aussi, vous êtes directeur de brasserie et pour vous, il y a urgence pour les brasseurs?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait.
Expliquez-nous pourquoi. Alors c'est pareil, c'est ce chiffre des 10 millions de litres. Vous ne savez pas ce que vous allez en faire?
Alors nous, on n'a pas 10 millions de litres. Parce
bien
que,
évidemment.
Voilà. Mais déjà, toutes nos bières qui étaient branchées, sachant qu'on a 6 becs dans notre brasserie, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que il va y avoir un accompagnement des brasseurs? Est-ce qu'il va y avoir une augmentation? Il faudrait qu'on puisse se réunir pour pouvoir justement en discuter, parce que s'il y a augmentation... ça va se répercuter sur le prix de vente d'un demi.
Alors, juste après, pour qu'on comprenne bien, Stéphane, toi, tu es directeur de brasserie, c'est ça?
Mais
de brasserie, alors, parce qu'il y a les deux types de brasserie. Toi, c'est restaurant ou brasserie qui fabrique la bière, justement?
Non, restaurant.
Alors, restaurant. On est avec Fabrice Le Goff, qui est membre de Brasseurs de France. Fabrice Le Goff, est-ce que vous avez des réponses aux questions que se posent les patrons de resto, hein, pour résumer comme Stéphane?
Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'on accompagne la filière. C'est-à-dire, nous, on est un petit peu en bout de chaîne. Moi, la vision que j'ai donnée, par exemple, que j'ai remontée, comme les autres adhérents à Brasseurs de France, il y a aussi un autre syndicat qui fait le même travail, qui s'appelle la SNBI, travailler à recenser aussi les difficultés dans lesquelles sont les brasseurs. On a recensé aujourd'hui ce qu'on avait en stock, d'accord? Mais ce monsieur a raison. C'est-à-dire que moi, il y a une partie de ce que je vais devoir potentiellement récupérer que je ne connais pas. C'est ce qui est dans les entrepôts de mes distributeurs. Et ça, à la rigueur, je peux essayer d'en avoir une petite idée. Mais il y a aussi tout ce qui est dans les caves des bars, qui est soit branché ou soit en attente, qui était en attente d'être branché, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on a demandé aux bars de fermer leurs portes quasiment du jour au lendemain. Si on leur avait donné un petit peu de temps pour s'organiser, ça aurait été un peu différent quand même. On aurait géré les stocks, ils auraient géré les stocks un peu différemment. Mmh. Et donc, il va falloir qu'on fasse ce travail aussi de les accompagner. J'en profite quand même pour souligner au passage qu'une des raisons pour lesquelles il va falloir qu'on les aide à faire ce job, c'est qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas très présents aujourd'hui pour accompagner les bars qui sont fermés, je pense, ce sont les assureurs, d'accord ? Si l'assureur de ce monsieur lui avait dit « Monsieur, ne vous inquiétez pas, tous les fûts qui sont branchés chez vous et ceux qui sont en cave, dont la date va être passée, et je vous les couvre, moi, brasseur, je ne serais pas en train de me poser la question de savoir comment est-ce que je vais pouvoir aider ce monsieur quand il va rouvrir son restaurant. » Parce que une de mes priorités, en tout cas, ou son bar, une de mes priorités, ça va être de faire en sorte qu'il ne serve pas mes bières avec des lieux dépassés.
Fabrice Le Goff, vous parliez des assureurs. Quel est le rôle à jouer de l'État dans cette discussion tripartite entre l'État, les assurances et vous ?
Eh bien, moi, je pense que le rôle de l'État, c'est de mettre une grosse pression sur les assureurs pour qu'ils contribuent, pour qu'ils mettent la main à la pâte. Je ne sais pas si... je crois que tout le monde essaye de jouer son rôle. L'État a joué son rôle, il essaye de continuer son rôle. Alors, des choses qui marchent bien et des choses qui marchent moins bien. Nous, on va essayer aussi de jouer notre rôle. Et typiquement, si ce monsieur était un de mes clients et qu'il me disait « Voilà, j'ai des fûts qui sont percés, je suis embêté, je n'ai pas bossé depuis 3 mois, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?»
Ouais.
J'essaierai de lui échanger son fût. Je l'essaierai, quand il va rouvrir, de lui donner un fût avec une bière fraîche pour que, quand ses clients arrivent, ils aient envie de boire une bière locale, une bière française, et pour leur donner envie de revenir dans un bar. Si on leur donne de la mauvaise bière, ça va pas être top pour redémarrer la machine.
Et vous avez des réponses à Brice Le Goff de l'État, justement ?
Eh ben, il y a des discussions qui sont en cours actuellement entre les syndicats de brasseurs, les syndicats aussi des hôtels-restaurants, et puis et l'État et les assureurs. C'est sûr que nous, à notre petit niveau, en tant que brasseur ou en tant que cafetier ou restaurateur, quand on dialogue avec un assureur, on se rend vite compte que la gestion du risque, elle est assez limitée pour l'assureur. Hein. C'est-à-dire qu'on a tous des assurances responsabilités professionnelles. Moi, si demain, il y a un virus qui venait à contaminer mes bières dans la brasserie, je serais tout de suite couvert. D'accord ? Mais là, il y a un virus qui contamine le monde et je ne suis pas couvert. Et le monsieur que vous avez en ligne n'est pas couvert. Et la totalité de la filière n'est pas couverte. Donc, c'est un moment. Moi, je risque d'être obligé, en plus des bières que j'ai dans ma brasserie, de récupérer et potentiellement de devoir détruire en plus celles qui sont chez mes clients, directes ou indirectes. C'est pour ça qu'il y a vraiment un deuxième effet qui se coule. C'est-à-dire que là, on a annoncé des chiffres qui sont la vision qu'on a si jamais on devait rester fermé jusqu'au 15 juin. Mais les inconnus sont, un, est-ce qu'on va devoir rester fermé plus longtemps ? Et deux, quel stock on va devoir récupérer pour accompagner les bars et les restaurants à redémarrer dans de bonnes conditions.
Ok, on remercie Stéphane de nous avoir appelé au 3216.
Merci Stéphane.
Bon courage à toi pour la réouverture de ton restaurant. Et on remercie également Fabrice Le Goff d'avoir été en direct sur RMC. Merci.
Merci à vous.
Brasseur à Saint-Denis et membre de Brasseurs de France. Et on rappelle, l'alcool à consommer avec modération.
Surtout pour toi.
Important de le rappeler. Il est 20h59, RMC Mobilisation Générale continue. Dans un instant, on parle poker, Koh-Lanta notamment. Voilà, on va essayer de mieux vivre ce confinement et ce déconfinement. À tout de suite sur RMC.
RMC Mobilisation Générale.
Plus fort ensemble.